au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Bon, nous sommes de retour et dans pas long, on reprend vos appels, mais Philippe doit faire une rétrospective 2017 de ses essais routiers.
En fait, Daniel, ce que je vous propose, c'est plus qu'une rétrospective, c'est un top 10. Hein? Les gens aiment ça aujourd'hui, les top 5, les top 10, les top 20. Ouais. Alors j'ai dit, bon, on va y aller avec le top 10 des essais routiers. Je tiens tout de suite à dire que sur ma page Facebook, j'ai mis des photos des 10 voitures en question. Et je pense qu'il y a 8 ou 9 de ces 10 voitures-là sur lesquelles vous pouvez trouver là des essais complets sur mon site, là, philippelagu.com. Et, tu sais, Daniel, d'habitude, on garde le punch pour la fin, là.
Ouais.
Mais là, bon...
Je commence pas par le 10.
Je vais commencer par le 1. Okay. Je vais commencer par le 1 parce que, bon, tu le sais, le facteur temps, ça nous bouscule souvent.
Ouais.
Alors, j'ai dit, moi, là, il faut quand même parler de la plus importante tout de suite en partant. Et c'est celle qui a été ma préférée. Puis c'est une voiture dont je ne vous ai pas parlé à Auto 360 cet automne parce qu'on n'a pas eu le temps, puis j'en avais d'autres aussi. Et c'est la Jaguar F-Type 400 Sport. Ça, vraiment, cette année, là, ça a été ma voiture préférée. Puis, je vais faire un petit clin d'œil à ma conjointe qui, quand même, embarque dans toutes sortes de voitures, elle aussi, depuis quelques années, depuis qu'on est ensemble. Et ça a été, je dois le dire, hein, de loin, sa voiture préférée, elle aussi. Je constate d'ailleurs que, puis je ne sais pas si tu as observé la même chose, toi, Daniel, mais les Jaguars, c'est vraiment des voitures que les femmes aiment beaucoup.
Ben oui.
Moi, c'est
les Jaguar et les Volkswagen Golf, je ne sais pas pourquoi, mais
ouais, bon, là, on est dans
deux affaires,
deux extrêmes.
Mais ça plaît aux femmes.
Mais écoute.
Mais les Jaguar, moi, t'as bien raison. Puis la F-Type plaît, oui, aux femmes, mais je pense que.
Mais toutes les Jaguars, tu sais, moi, ça fait, bon, plus de 25 ans que je fais ça. J'ai travaillé dans des milieux, tu sais, un petit peu. Un peu intello, tu sais, des fois, on snob un petit peu l'automobile. Tu sais, je travaillais à la presse, au Devoir, à Radio-Canada, tout ça. Puis, tu sais, si j'avais une Porsche, une Ferrari, peu importe, ça faisait pas... Tu sais, ça changeait pas grand-chose dans la vie de grand monde, ça paraissait, là. Mais une Jaguar, écoute, ça avait un impact, et surtout sur les femmes. Alors, il y a quelque chose entre les femmes puis les Jaguars, et je ferme la parenthèse là-dessus, parce que c'est pas juste les femmes qui les aiment. Moi aussi, j'aime ça.
Et voilà.
Puis la F-Type, la version 400 Sport, j'ai tellement aimé ça. Je trouve que c'est la Jaguar la plus équilibrée, la plus balancée. J'explique c'est quoi une 400 Sport. D'abord, si vous êtes un collectionneur, c'est un très bon achat à faire, hein, parce que c'est une voiture qui est commercialisée en édition limitée juste pour un an. Alors, c'est juste l'année modèle 2018. Et vous le savez, bon, chez Jaguar, hein, on a une échelle très variée de moteurs. On a un large rayon. On a des sapeurs avec un 4 cylindres de 2 litres de presque 300 chevaux, 296 chevaux, jusqu'à un V8 de 5 litres de 550 ou 575 chevaux si on prend la version optimale. Il y a aussi des V6, 340 et 380 chevaux. Mais là, la 400, comme son nom l'indique, a 20 chevaux de plus, donc 400 chevaux, des freins plus puissants, un châssis qui est un petit peu amélioré et aussi une décoration intérieure exclusive là, avec les sièges performance, les surpiqûres aussi là, qui sont distinctives. Alors, c'est très, très, très réussi.
Toutes les moulures de bas de caisse là, devant avec le petit 400. Là,
es-tu belle?
La bavette à l'avant. Là.
Non, mais...
Type Formule 1, là, c'est vraiment cute.
Es-tu belle?
Ah ouais.
Moi, la F-Type, déjà, là, c'est une voiture qui me fait plier les genoux, là, mais cette version-là, en plus, là, j'ai trouvé ça fantastique. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé le moteur parce que grâce au compresseur, contrairement à un turbo, il n'y a pas de temps de réponse.
Il y a toujours de la puissance.
La réponse est instantanée, exact. Puis la puissance, ben, c'est un petit peu moins brutal que le V8. Puis surtout, la sonorité est moins extrême que celle du V8. Jaguar, là-dessus, sont allés un peu fort. Là. Surtout avec les détonations là, à l'échappement quand on rétrograde, entre autres. Là. Mais bon, en même temps, on peut toujours mettre ça très, très fort quand on met le mode dynamique. Là. Ça, c'est sûr que le voisinage au complet va savoir que vous venez de démarrer votre Jaguar. Les performances,
donc,
ben, écoute...
depuis que Jaguar a lancé la F-Type, c'est la deuxième à collectionner. Ils ont lancé une Projet 7.
Oui.
Déjà.
Oui.
Et là, celle-là, la 400,
ouais.
Ça fait déjà deux.
Oui, très bon point. Très bon point. Alors ça, là, vraiment, là, c'est une voiture très intéressante. Performance aussi, qui sont vraiment athlétiques. T'sais, c'est une voiture qui n'est pas si lourde que ça. On fait le 0-100 en moins de 5 secondes, ce qui est une espèce de Saint Graal aujourd'hui. Là. Et bon, il y en a qui le font en moins de 4 et même en moins de 2, mais là, on tombe dans les supercars ou les hypercars. On est dans le 500 000 et plus ou dans le 1 million et plus. Et une voiture qui fait du bon travail partout, boîte automatique aussi, qui est toujours fluide, hein, qui n'est jamais saccadée, il n'y a jamais d'hésitation. La direction, écoute, c'est exactement ce que devrait être la direction d'une voiture sport. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait triper de cette voiture-là, c'est que c'est une voiture qui est idéale pour toutes les conditions. C'est une voiture qu'on peut utiliser sur une base quotidienne, même si c'est une voiture sportive, même si c'est une voiture musclée. C'est une voiture qui est capable d'être très confortable. On ne se lasse jamais de conduire une F-Type, peu importe le type de parcours. Puis moi, écoute, cette année, c'est l'une des voitures dans lesquelles j'ai passé le plus de temps. Je n'ai jamais ressenti le moindre inconfort, la moindre fatigue.
J'ai trouvé ton oreiller dans le coffre, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Et madame a trouvé ça aussi confortable, aussi. C'est important de le dire, là, tu sais, il y a un passager ou une passagère à côté, là, qui...
Philippe, on va devoir accélérer les autres points.
Qui a vécu tout ça. Là. Oui, mais tu comprends pourquoi je voulais commencer par elle. Parce que les autres, de toute façon, c'est des voitures dont on a déjà parlé aussi. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment mettre
l'accent. Alors, la deuxième.
Ben, la BMW 8. Hein. Je pense que si vous avez écouté ce que j'en ai dit à Auto 360, vous ne serez pas très surpris. C'est une des expériences les plus marquantes de ma carrière. Il y a juste ça que je peux dire. Il y a des choses qui m'ont agacé d'entrée de jeu. On en avait parlé, mais j'ai tellement aimé la voiture de plus en plus, de jour en jour, que les irritants ont fini par s'estomper. Alors, la 8, vraiment, c'est marquant. L'Aston Martin DB11, parce que conduire une Aston Martin, Daniel, c'est un privilège, même pour un chroniqueur automobile qui a plus d'un quart de siècle d'expérience. Puis un privilège, ben, ça ne se refuse pas. C'est une marque que je connais très bien. J'ai même visité les deux usines, l'ancienne et la nouvelle, mais c'était seulement la deuxième fois que je conduisais une Aston Martin. Puis, tu sais, c'est une V12 en plus. Puis je peux compter sur les doigts de la main les fois où j'ai conduit des voitures à moteur V12 dans toute ma carrière. C'est aussi une des voitures les plus chères que j'ai pu conduire. Mais pourquoi est seulement troisième? Parce que c'est quand même une Aston Martin. Ben, tout simplement, probablement parce que je ne l'ai pas conduit assez longtemps. Un après-midi seulement, puis là-dessus, il fallait prendre des photos, tourner des vidéos. Alors, ça a été un moment un petit peu trop court. Puis un autre facteur aussi, moi, le V12 biturbo, là, ça m'a pas donné autant de frissons que le V12 atmosphérique. C'est probablement parce que je suis un puriste, mais bon, question de sonorité surtout. Bref, si je devais m'acheter une Aston Martin, ce serait une Vanquish, parce que justement, je suis un puriste. Quatrième, ben, le duo Mazda MX-5 et Fiat 124 Spider. Ça, c'est pas compliqué. Depuis que j'ai commencé ma carrière en 1991, à chaque année, la Miata est une de mes voitures qui me procure le plus de plaisir. Je le sais, on dit plus Miata, on dit MX-5 maintenant.
Quelle erreur.
Mais, ben non, c'était voulu parce que
de Mazda, d'avoir.
Oui, de pas avoir gardé Miata. Ça. Mais je suis tellement d'accord avec toi parce que les chiffres et les lettres, là, à un moment donné, on s'y retrouve plus.
C'est ça.
Hein? Bon. Et pour la première fois...
Tout le monde le sait.
Ben oui, exact. Voilà. Puis pour la première fois, la MX-5 a une jumelle, c'est la Fiat 124 Spider. Mm-hmm. On a pu les conduire toutes les deux. On en a parlé ici à Auto 360. Et ça, c'est la preuve aussi que des voitures n'ont pas besoin de coûter 75 ou 100 000 pour donner beaucoup, beaucoup de plaisir. Ceci étant dit, j'ai une petite réserve. Hein? Les versions les plus chères des MX-5 et des Fiat 124 Spider, on est quand même rendu à pas loin de 50 000. Ça commence à faire un peu cher pour des voitures à 4 cylindres, là, tout de même. Ouais. Chevrolet Corvette Grand Sport, c'est ma cinquième. Pourquoi c'est juste ma cinquième alors que la Corvette est une de mes voitures préférées? Parce que la version Grand Sport, c'est vraiment un peu trop extrême pour moi. Mon oncle qui a passé l'âge, là. Réellement, là. Mais, tu sais, c'est une Corvette de piste. Mais c'est quand même une Corvette, alors j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à conduire ça, même si j'ai perdu quelques plombages, comme je l'avais mentionné. Lexus LC 500 en sixième place, parce que, quelle gueule, Daniel, mais quelle gueule. Moi, ça fait longtemps qu'une voiture japonaise m'a pas décroché la mâchoire.
On dirait un prototype sur roue.
Oui, d'ailleurs, tu te souviens, on avait vu le prototype au salon de Los Angeles,
Et voilà.
Deux ou trois ans avant qu'elle sorte, et elle est identique. au prototype. Voiture qui est belle, qui est rapide, qui est confortable, qui est silencieuse, c'est une vraie GT, mais elle a une qualité qui est rare dans la catégorie des voitures exotiques, c'est la fiabilité. C'est quand même pas rien. Puis je peux te dire que si elle avait été juste un peu moins lourde, elle serait peut-être dans mon top 5. Mais c'est quand même une voiture assez phénoménale. Cadillac CT6 en 7e place. Et ça, c'est une surprise. D'abord parce que c'est une voiture que j'ai conduite seulement la semaine dernière. Et honnêtement, Daniel, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et j'ai vraiment trippé sur cette voiture-là. On le sait, Cadillac, hein, ils mettent leur châssis au point au Nürburgring maintenant. Et ça commence à paraître. Hein? Moi, j'avais rarement conduit une voiture de luxe américaine qui avait un aplomb comme ça sur la route. Et c'est ce qui me l'a fait devancer même la Lincoln Continental.
Oui, c'est étonnant, ça.
Et pourtant, une voiture que j'ai adorée cette année, on s'en est parlé en long et en large. Oui. Mais la CT6, écoute, le châssis de cette voiture-là,
solide.
Le comportement.
Je pense que les roues directionnelles font un très bon travail
aussi,
à l'arrière.
Oui.
C'est peut-être une des raisons pour laquelle on la sent si sécuritaire sur la route.
Puis la direction, c'est ultra précis, je veux dire. On est loin des Cadillacs là, qu'on a pu conduire dans les décennies précédentes. On est à des années-lumière. Je termine avec les deux dernières. Ford Focus RS, une voiture dont on n'a pas parlé à Auto 360, mais moi, c'est ma préférée dans la catégorie des mini-bombes, là, des pocket rockets. J'ai aussi pu conduire cette année la nouvelle WRX STI. J'ai pu conduire également la Golf R. Ce sont ses deux rivales directes. Mm-hmm. Et si je devais m'en acheter une, moi, ce serait la RS. J'ai tout aimé de cette voiture. Et en 10e place, ben écoute, une valeur sûre, un amour de jeunesse, la Challenger.
Voilà.
Hein, ça a des gros défauts, mais en même temps, quelle personnalité. Quel bel hommage à l'ancienne, à la Challenger originale également.
Tu me nommes tes déceptions rapidement?
Rapidement, on a le temps, je te fais ça vite. L'Alfa Romeo Giulia, sais-tu pourquoi? Parce que j'aime viscéralement les Alfa Romeo. Puis je m'attendais à un peu plus, et surtout je m'attendais à un peu plus côté sonorité. Moi, un Alfa Romeo qui a un moteur qui sonne pas, c'est pas une Alfa. C'est aussi simple que ça. Cadillac XTS, que j'ai conduit il y a deux semaines, avant la CT6. Je me demande d'abord pourquoi on la garde chez Cadillac maintenant qu'on a la CT6. Puis, tu sais, ça commence à sentir le passé date un peu, surtout avec l'ancien système Q qui me faisait tant enrager et qui m'a encore fait enrager il y a deux semaines. Et j'ai pu constater avec la CT6 qu'on l'avait enfin amélioré. Chrysler Pacifica, c'est une déception, mais le mot est peut-être un peu fort. C'est juste que je m'attendais à plus. C'est quand même la plus luxueuse des mini-fourgonnettes chez Chrysler. Puis tu sais, j'ai conduit, peu de temps après, j'ai conduit l'Honda Odyssey. On n'est pas là encore. On n'est pas au même niveau. Et légère déception aussi pour la Jaguar XE. J'ai trouvé que c'est une voiture qui manque un peu de raffinement pour faire jeu égal avec ses rivales allemandes. Il suffit de conduire une petite Mercedes classe C ou encore la dernière Audi A4 pour se rendre compte que sont pas tout à fait là. Il y a des grosses qualités, le châssis, la direction, entre autres, mais c'est pas aussi bien insonorisé. C'est pas tout à fait le même niveau de confort. Et surtout, la mécanique, ça manque un peu de raffinement. Moi, le 4 cylindres, entre autres, là, de la Jaguar XE, c'est une déception. Ah, voilà.
Bon, merci beaucoup, Philippe. On se reparle un petit peu plus tard pour parler le bloc Formule 1.
Et de Lance Stroll.
Et de Lance Stroll, pourquoi pas. On s'arrête et on revient. Restez là.
Au réseau Cogeco, Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagut.
Nous sommes de retour, oui, avec Philippe Lagut, mais pour cette fois-ci, parler de Formule 1, il faut parler de cette saison. Je ne sais pas comment qualifier cette saison-là. J'ai hâte de voir, Philippe, parce que moi, j'ai eu de l'intérêt par l'entremise de Lance Stroll, je dois être honnête.
Oui, mais à part Lance Stroll, ça a quand même été une saison intéressante. Parce que là, pour une fois au moins, c'était pas...
une domination de Mercedes.
J'allais dire un one-man show, ou plutôt un one-équipe show. Là.
Ouais.
C'est ça, c'était pas juste Mercedes, c'était pas juste les deux pilotes de Mercedes qui étaient capables de se battre pour le titre. Au moins, Ferrari a été là. Et c'est important de dire que cette année, c'est pas Mercedes qui a gagné le championnat. C'est Ferrari qui l'a perdu. Et la nuance est importante parce que Ferrari, vraiment, là, ils se sont torpillés. Ils ont perdu ce championnat-là par leur propre faute. Ils n'avaient pas une voiture qui était meilleure que la Mercedes, qui était au moins égale, puis même meilleure, peut-être, oui, parce qu'à la rigueur, elle était un petit peu plus polyvalente.
Je pense qu'en début de saison, Philippe, elle était meilleure, cette voiture-là.
Bien, carrément.
Ferrari, mais
carrément.
Les problèmes de fiabilité ont scrappé leur saison.
Il y a eu de la fiabilité, mais écoute, il y a eu des erreurs depuis, oui, aussi, si tu me permets l'expression. Là, hein? Vettel, là, au Grand Prix à Singapour, là, quand ils sont rentrés dedans avec Raikkonen, là, puis qu'ils ont pris Verstappen en sandwich, là, c'était pas très, très glorieux, vraiment pas. Puis quand tu es en lutte pour le titre, tu fais pas une erreur comme ça. Puis tu fais pas une erreur comme ça quand tu t'appelles Sébastien Vettel puis tu es un quadruple champion du monde. Puis tu fais pas une erreur comme ça quand tu pilotes pour Ferrari, point à la ligne. Puis tu sais, après ça, là, honnêtement, je me rappelle plus c'était à quel Grand Prix, là, c'était vers la fin de la saison, un problème de bougie avec une des voitures. Là. Écoute, là, hein, tu te bats pour le championnat du monde, là, puis tu as un problème de spark plug, comme on disait en bon québécois dans le temps. Là. Enfin, franchement, c'est un peu gênant, là, c'est un peu honteux. Alors, il y a eu quelques épisodes comme ça chez Ferrari, et c'est pour ça que je te disais tantôt, ils ont vraiment perdu le championnat, parce que Mercedes n'était pas si dominant que ça cette saison. Hamilton, ben, c'est Hamilton, il ne faut jamais le compter pour battu. Puis je pense aussi qu'entre les deux oreilles, Hamilton a été plus fort que Vettel. Il y a joué dans la tête. Et il a gagné. Il a gagné.
Comme il a été plus fort que Rosberg l'année dernière.
Mais Rosberg avait quand même gagné le championnat. Parce
moi, je
ne
suis pas le fan numéro un de Hamilton, mais je dois respecter le pilote. Je dois dire
qu'il fait
vraiment tout ce qu'il faut faire pour gagner.
Ça en est tout un. Puis, tu sais, oublie pas une chose. On disait cette année, c'est pas Mercedes qui a gagné le championnat, c'est Ferrari qui l'a perdu. L'année dernière, c'est pas Hamilton, c'est pas Rosberg qui a gagné le championnat, c'est Hamilton qui l'a perdu. Parce qu'Hamilton, en 2016, avait raté 4 de ses départs. Et n'eût été de ça, c'est probablement lui qui aurait été champion parce qu'effectivement, psychologiquement, il avait l'avantage sur Rosberg. Mais quand même. Alors, bref, saison très intéressante qui nous a amené évidemment des déceptions, des surprises parmi les belles surprises, ou en tout cas, c'est pas une surprise, mais une belle performance, encore une fois, c'est Force India. Hein. Ils ont été ultra, ultra réguliers, les deux pilotes de Force India, Sergio Perez et Esteban Ocon. Soyez sûr d'une chose, si ces gars-là étaient dans une Ferrari, dans une Mercedes ou dans une Red Bull, ils gagneraient des courses. C'est vraiment deux excellents pilotes. Ils sont fiables, ils sont constants. Bon, des fois, les petits coqs se sont battus un petit peu trop. Il a fallu instaurer des consignes d'équipe chez Force India, mais quand même, c'est devenu la quatrième force en puissance de la Formule 1, il faut le dire. Ça veut dire que c'est la meilleure des autres. Parce qu'on le sait, Red Bull, Ferrari, Mercedes, c'est dans une classe à part. Il y a à peu près juste ces trois équipes-là qui peuvent gagner des courses. Mais Force India, vraiment. Puis avant, la meilleure des autres, c'était Williams.
Mm-hmm.
Ce qui nous amène à parler de Lawrence Stroll. Pas Lawrence, excuse-moi, j'ai fait un lapsus. C'est son père, de Lance. De Lance Stroll. Et Lance, oh, que ça a été difficile hein, cette année.
Là, parle-moi, écoute, juste avant qu'on parle de Lance,
vas-y.
Parce qu'il y a deux choses.
Oui.
Là, tu vas me séparer le pilote et la voiture.
C'est difficile de le faire, mais vas-y.
Est-ce que Lance a eu cette saison-là parce qu'il n'y avait pas la bonne voiture ou est-ce que la voiture était moyenne puis Lance a été moyen, donc ça a donné des résultats très ordinaires? Est-ce que la voiture et l'écurie ont son rôle à jouer dans la saison catastrophique de Lance?
En partie, mais pas beaucoup. Parce que Lance disposait quand même de la cinquième meilleure voiture du plateau. On l'a dit, il y en a trois là, qui sont hors d'atteinte. Ferrari, Mercedes, Red Bull. Et ils se sont maintenant fait dépasser par Force India. Mais après Force India, c'est qui la meilleure équipe? C'est pas mal Williams.
Ben oui.
Et Lance, bon, d'abord, il a été particulièrement inexistant en qualification. Hein? Parce que son coéquipier, Felipe Massa, c'est 17-2. Au niveau des qualifications. Il y a eu 20 Grands Prix. Massa a raté une épreuve pour des raisons de santé, mais 17 fois, il s'est qualifié en avant de Lance Stroll. Et Massa, c'est un pilote de 36 ans. C'est un gars qui est une seconde moins rapide qu'il l'était il y a 10 ans. C'est quand même pas, tu sais, c'est pas un pied de céleri, Felipe Massa, mais plus le Felipe Massa d'il y a 10 ans non plus. Et Lance, tu sais, c'est un jeune et ça aurait dû, quelque part, être un de ses avantages là-dessus aussi. Tu sais, justement, plus jeune, réflexe plus aiguisé, plus intrépide, etc., etc. Et pourtant, Lance Stroll a accusé un retard moyen de près de 0,7 de seconde pendant toute la saison. Souvent, là, Felipe Massa roulait une seconde pleine plus vite que Lance Stroll. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'au cours de la saison, il n'y a pas eu de véritable signe de progression là, en performance pure. Là. Il ne s'améliorait pas dans les qualifications. Il y a des courses, écoute, où il était carrément le pilote le plus lent en piste. C'est quand même pas rien. Là. Puis d'ailleurs, la presse britannique n'a pas manqué de le souligner. Puis là, c'est important de spécifier que t'sais, justement, on parlait de Felipe Massa, là, qui roule une seconde moins vite que le Massa de 2007. Et ça, c'est une autre comparaison qui fait mal à Lance Stroll. Parce que, regarde, si on compare McLaren et Williams, c'est deux équipes qui ont plusieurs points en commun. Hein, c'est deux grandes écuries qui vivent en ce moment des années un petit peu plus difficiles et qui ont une paire de pilotes assez semblables. Chez McLaren, tu as un vétéran qui est bien établi, Fernando Alonso. Puis tu as un jeune espoir, le Belge Stoffel Vandoorne. Puis Vandoorne, il a souffert lui aussi de la comparaison avec Alonso cette année. Sauf qu'Alonso, lui, il est aussi rapide qu'il y a 10 ans. Contrairement à Felipe Massa, qui est un cheval beaucoup moins fringant pour plusieurs raisons. Je pense que psychologiquement, ça a eu un impact quand il a perdu le championnat du monde dans la dernière course en 2008. Puis je pense surtout que c'est son terrible accident là, qui a eu un impact aussi. Alors, ça fait une différence. Mais Alonso, c'est toujours Alonso. Alors, autrement dit, c'est plus gênant dans ces conditions-là d'être moins rapide que Felipe Massa. Ceci étant dit, si on regarde la colonne des plus, il y a évidemment sa place en première ligne, pardon, lors des qualifications du Grand Prix d'Italie, hein, sous la pluie. Ça, c'est un exploit et il le doit seulement à lui-même. Il n'a pas bénéficié de circonstances favorables. Là. Il pleuvait pour tout le monde.
Ah oui.
Bon, c'est aussi le seul pilote non Mercedes, non Ferrari et non Red Bull qui s'était lancé de la première ligne en 2017. Et si on regarde du côté course, parce que là, on vient de regarder le côté qualification, en course, le bilan est pas trop brillant là non plus, mais là aussi, il y a quelques bons moments. Ils se comptent sur les doigts d'une seule main, c'est vrai, mais ils sont là. On le sait, au début de la saison, ça a été difficile, hein? 3 abandons coup sur coup, mais finalement, Lance a écrit ses premiers points en Formule 1 vers la mi-saison, là, à domicile, au Grand Prix du Canada, avec une 9e place. Tout de suite après Montréal, là, bing, c'est son coup d'éclat cette saison. Il finit 3e au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et encore une fois, il est le seul pilote qui appartient, qui n'est pas avec Mercedes, Ferrari ou Red Bull, qui est monté sur le podium en 2017. C'est vrai que le Grand Prix d'Azerbaïdjan, ça a été mouvementé. C'est vrai qu'il y a eu des circonstances qui lui ont été favorables. Il y a eu des accidents, il y a eu un paquet d'affaires. Mais tu sais, être bon en Formule 1, c'est aussi être capable de se tenir loin du trouble. Et ça, là-dessus, Lance, il est bon. Ensuite, bon, regarde après ça. Là. Il était 7e en Italie, il est d'un point. C'est 7e, là, c'est à peu près là que tu devrais te classer avec une Williams. Là. Le top 5, c'est un petit peu difficile, là, mais après ça, là, ils ont une voiture pour ça, là, pour être dans la deuxième partie du top 10, là, entre 5 et 10. Alors, 7e en Italie, 8e à Singapour, 8e en Malaisie. Puis là, ben après ça, c'est un jeu de serpent et d'échelle. Tu sais, il redevient invisible pendant une course, deux courses, puis après ça, whoop, on le revoit, 6e place à Mexico, puis après ça, bing, invisible dans les deux dernières courses. C'est vraiment mystérieux.
Qu'est-ce que tu vois pour 2018?
Ben honnêtement, je suis optimiste quand même, pour deux raisons. Puis c'est pas parce que je veux faire ma cheerleader, c'est pas tellement mon genre, tu me connais assez pour ça. Mais bon, d'abord, il y a une saison d'expérience, ce qui lui manquait cruellement cette année. Hein, le petit gars, là, parce que c'est ça. Comme dirait Ron Fournier, là, un petit bébé, là. Hein, ils appellent comme ça, lui, les jeunes joueurs du Canadien, là. Mais tu sais, Lance, écoute, il arrive, là, il vient d'avoir 18 ans, puis il commence en Formule 1. Et surtout, il est passé de la Formule 3 directement à la Formule 1. C'est sûr qu'il y a des talents d'exception, là, comme Max Verstappen, qui sont capables de faire ça, mais c'est rare.
Lui pourrait s'améliorer, mais est-ce que l'écurie va s'améliorer?
Ben, je pense que oui. Je pense que oui, parce que, bon, faut pas oublier une chose, hein, le directeur technique de Williams, il s'appelle Paddy Lowe. C'est un Britannique, et ça, c'était le directeur technique de Mercedes avant. Mercedes, hein, qui collectionne les championnats depuis 3 ans. Alors, c'est sûr que cette année, Paddy Lowe venait d'arriver chez Williams. Donc, la Williams qu'on avait cette année, c'était pas la sienne. Il y a pas eu, on n'a pas encore vu la première Williams, tu sais, là, qui a été conçue sous la supervision de Paddy Lowe. Alors, est-ce qu'on va avoir une meilleure voiture l'année prochaine? Ça, il y a des grosses chances. On va avoir un Lance qui a plus d'expérience. Ma seule crainte, c'est que Lance, puis je vais terminer avec ça, Lance, il a besoin d'un coéquipier pour le tirer vers le haut. Et là-dessus, je pense que Massa faisait la job. C'était aussi un très bon mentor pour Lance. L'année prochaine, le coéquipier de Lance Stroll, c'est un pilote russe, Sergei Sirotkin. C'est un gars qui n'a jamais disputé de Grand Prix. Il a fait des essais. Il a été 3e pilote avec Renault, mais il n'a jamais disputé une course de F1. Son palmarès dans les rangs inférieurs, il n'est pas médiocre, mais il n'est pas étincelant non plus. Aucun championnat. Je pense vraiment pas que c'est un pilote qui va tirer Lance vers le haut. Est-ce qu'on a voulu...
L'expérience aurait été de mise pour Lance l'an prochain.
Oh, mais tellement... Tellement.
Rapidement, là, qu'est-ce que tu vois là, dans l'échiquier? Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo qui arrive, évidemment.
Ouais, ben Alfa Romeo, là.
McLaren, un nouveau moteur. Qu'est-ce que tu vois là, ben, dans pour 2018, rapidement?
Alfa Romeo, je vois pas grand-chose. C'est le moteur Ferrari rebadgé. Par contre, ça va beaucoup aider Sauber, parce que là, ils vont avoir un moteur Ferrari, même s'il va avoir un écusson Alfa Romeo dessus, là.
Ouais.
Mais ils vont avoir le moteur Ferrari de l'année en cours. Alors qu'avant, dans les anciennes associations de Sauber avec Ferrari, ils avaient le moteur de la saison d'avant. Tandis que là, ils vont avoir le même moteur, ça va les aider beaucoup. Sauber, c'est une équipe qui a progressé aussi vers la fin de la saison. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas gardé Pascal Wehrlein, qui est quand même vraiment un authentique espoir. Puis c'est un gars qui aurait pu les amener plus haut. Mais en même temps, ils ont tout un espoir entre les mains. Ça, retiens ce nom-là, Daniel. Charles Leclerc. Et comme son nom ne l'indique pas, c'est pas un Québécois, c'est pas un Leclerc du Bas-Saint-Laurent. C'est un Monégasque. Mais lui, il a été très impressionnant cette année en Formule 2. Il a tout brûlé et il fait partie de la filière Ferrari. C'est pour ça qu'on l'a placé chez Sauber, d'ailleurs. Donc ça va être un gars à surveiller. Puis l'autre équipe à surveiller l'année prochaine, ça va être McLaren. Parce que là, McLaren, ils pouvaient tout mettre sur le dos de Honda. Ils ont mis fin à leur association avec Honda. Là, l'année prochaine, ils vont avoir le moteur Renault, le même moteur que Red Bull et l'écurie Renault. Alors là, ils n'auront plus d'excuses. Ben, ils ont quand même Fernando Alonso. Hein. Je pense que c'est un pilote que n'importe quelle équipe prendrait encore
et
aujourd'hui.
En terminant, il a été savoureux encore cette année dans ses commentaires, M. Alonso.
Oh ouais.
Bravo, ça c'est le fun. Juste lui, il est agréable à suivre. Écoute, on pourrait en parler encore une demi-heure, Philippe. Une demi-heure, 3/4 d'heure.
C'est quand tu veux, hein?
Mais on va devoir se reprendre. Merci beaucoup, Philippe. Fort apprécié.
Salut, Daniel. Ça a été un plaisir de travailler avec
ben
toi.
Oui,
vraiment.
Superbe. Merci, Philippe.
Salut. Passe des bonnes fêtes.
Alors, au retour, toi de même. Au retour de la pause, on prend vos appels. Je vous donne les numéros tout de suite. Montréal, 514-790-9850. Québec, 418-670-9330. Ailleurs, 1-866-790-9850. Auto 360 à cogecomedia.com. On vous revient.